allons ce matin regarder ensemble un passage dans Jean chapitre 15. Vous qui est là en première partie, vous le savez parce que je l'ai dit. Jean chapitre 15, nous verrons quelques versets dans la première épître de Jean également, mais ce sera principalement Jean chapitre 15 que nous verrons ce matin. Je vais essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, je vais essayer de faire les 16 premiers versets avec vous. Je ne sais pas, et je serai probablement emmené de scinder le message en deux, ce qui fait que vous serez obligé de revenir la semaine prochaine. Donc c'est une bonne chose. Mais Jean chapitre 15, alors dans ce passage, et d'ailleurs à travers tout le ministère de Jésus-Christ, Jésus s'est beaucoup servi d'images, de ces images dont il s'est servi pour enseigner ses disciples, pour enseigner la foule également. Il parlait souvent en parabole, et puis il s'est servi d'images pour expliquer et pour développer des vérités qui autrement seraient difficiles de comprendre. Et c'est ce que nous voyons ici, dans Jean chapitre 15. Alors, faute de temps ce matin, je ne lirai pas tout le passage. Je pense que c'est un passage qui est plus ou moins bien connu. Et ce que nous allons faire, c'est au fur et à mesure, nous verrons chaque passage. En fait, il y en aura quatre au sein de ce passage. Donc, voilà comment nous allons procéder. Et, Dieu voulant, au terme, nous aurons vu les 16 premiers versets. Donc voilà, Jean chapitre 15, et en fait, ce sont les trois premiers versets qui vont nous intéresser. Alors, permettez-moi de les lire. Ensuite, nous prierons pour placer ces moments entre les mains de Dieu. Jean chapitre 15, versets 1 à 3. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Prions. Oui, Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous demandons ton aide pour comprendre ta parole et surtout pour la mettre en pratique, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans notre cœur et que ce soit toi qui nous transforme par ta puissance. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors ici, Jean chapitre 15, Jésus se sert de cette image, d'un vigneron qui était très connu à l'époque, ici en France, surtout dans le sud de la France, il y en a beaucoup. Pas autant en Normandie. Normandie n'est pas si connue pour les raisins et tout que dans le sud de la France. Mais voilà, en Israël et encore aujourd'hui, des vignes, des vignobles et tout. Et Jésus va parler dans ces versets du vigneron. Et c'est quelque chose que les disciples auraient très bien compris. Quand Jésus employait les différents mots, quand il a utilisé cette image, les disciples, ils auraient dit, « Ah oui, d'accord, je comprends. Maintenant, je capte. » Et pour nous, il s'agit d'essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire à travers ces versets. Et dans ces trois premiers versets, il va nous parler dans cette image, en fait, de ce travail du vigneron d'émonder. Parce qu'à la fin de verset 2, il dit « Il émonde tout simplement qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et en fait, nous voyons dans la nature, et n'importe quel agriculteur peut le confirmer, pour que n'importe quel arbre, n'importe quelle plante fleurisse, grandisse, il faut qu'il passe par ce processus où le vigneron il passe et il va émonder. Il va enlever ce qui est mort, le bois mort, toutes les tiges, les sarments qui sont morts, qui sont inutiles, qui ne portent pas de fruits. Et c'est un processus nécessaire. Et si nous voyons ce processus dans la nature, la plante, elle ne va pas grandir. Ben, à ce moment-là, Jésus dit, dans la vie spirituelle, parce que nous sommes dans le spirituel ici, dans ces versets, ben, nous voyons que Jésus veut enseigner que le croyant se rend plus utile à Dieu lorsqu'il laisse Dieu, dans ce sens, l'émonder et enlever les choses qui doivent être enlevées. Et justement, dans ce processus d'émonder une vigne ou une plante autre, quand on va faire l'élagage des arbres, on l'a fait récemment à l'Institut biblique, ben, on enlève quand même une bonne partie. C'est quand même assez surprenant pour ceux qui connaissent le grand arbre derrière l'Institut, dans le parc là, à l'Institut. Si vous l'avez connu avant, immense et tout, et là ils ont pratiquement tout enlevé. C'est impressionnant. Parfois on se dit, mais ils sont pas allés peut-être un peu trop loin là, parce qu'il reste pas grand chose. Et pourtant c'est un processus nécessaire, parce qu'il faut enlever déjà le bois mort, le bois qui ne produit pas, parce que le bois mort, il est inutile, il produit rien, il n'y a rien qui va se passer là. Et du coup, nous voyons que, oui, ce bois mort doit être enlevé, et que, voilà, tout ce bois mort doit être enlevé. Que ce soit avec un arbre, que ce soit avec des vignes, des plantes, il ne suffit pas d'enlever une certaine quantité de ce bois mort, de ce qui ne produit pas, mais en fait, il faut tout enlever pour justement permettre au bon bois, au bois utile, fructueux, à la plante, à la vigne qui déjà a produit du fruit, de pouvoir en produire encore. Il faut que le cep, ici, verset 1, où nous revenons, je suis le vrai cep, pour que ce cep puisse atteindre justement la vigne, et aussi la vigne qui va produire du fruit. Et au verset 2, Jésus, il annonce, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il retranche. Littéralement, il enlève. Certains vont dire, ici, ce mot doit être traduit, il élève. Donc, des gens même que je respecte beaucoup, qui élèvent. Et c'est peut-être ce que Jésus voulait dire. Mais lorsque nous regardons le contexte, en fait, il retranche. Le mot veut dire littéralement, il l'enlève. Il enlève. Et nous voyons que Jésus fait ce processus d'éliminer. Il va fortifier ce qui porte du fruit. Donc, c'est ça ce que nous voyons dans la fin de verset 2. Il émonde dans le but justement qu'il porte encore plus de fruits. Mais si on n'est pas productif, cela doit être enlevé. Et malheureusement, certains ont pris ce verset et se sont dit, voilà, comme Jésus va enlever ce qui n'est pas productif, si un chrétien n'est pas productif, ben là, à ce moment-là, il va perdre son salut. Et certains sont arrivés à cette conclusion en regardant ce verset. Malheureusement, c'est une mauvaise conclusion, parce que, oui, Dieu peut enlever la vie à un croyant. Si nous restons stériles et inutiles dans l'œuvre de Dieu, Dieu peut nous enlever de cette vie, pour nous rappeler à lui, parce que nous sommes inutiles. Donc cela, ici dans ce verset, on n'est pas du tout en train de parler de perte de salut. Le salut, il est acquis pour toujours. À combien de reprises nous voyons la vie éternelle. Et même dans Tite, Paul, il va parler du salut éternel. Le salut n'est pas quelque chose qui peut nous être enlevé. Mais ici dans ce verset, Jésus dit, oui, si on reste stérile, si on reste non productif, inutile, à ce moment-là, Dieu peut être emmené, oui, à enlever, parce qu'il n'y a pas de fruit. Mais s'il y a du fruit, ne serait-ce qu'un peu, Jésus va émonder, il va justement venir et enlever, tout, dans ce cas, le bois mort, tout ce qui, dans notre vie, n'est pas productif, pour permettre à ce qui est productif d'apporter encore plus de fruits. Et ce n'est pas un processus qui, dans ce sens, est paisible, qui ne coûte rien, qui ne fait pas de mal. Non, même si une vigne n'a pas de vie dans ce sens et ça ne lui fait rien, vous lui coupez une branche et tout, la vigne ne ressent rien, n'est-ce pas? Heureusement. Mais à une personne, vous lui coupez un membre, ça fait mal. Et ce processus démondé et d'enlever, oui, ça peut faire mal, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, quelque chose d'intéressant à relever, parce que Jésus, il dit au verset 2 qu'il doit émonder afin que l'on porte encore plus de fruits. Verset 3, ici, il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il est intéressant ce mot « pur ».« Déjà, vous êtes purs », c'est la forme d'un adjectif, donc c'est un adjectif, et il est lié au verset 2, quand on voit « il émonde », en fait, séparé. Ça vient du même mot en grec, donc les deux mots sont apparentés, et il dit « déjà, vous êtes purs ». Donc il dit déjà à ses disciples, vous passez par ce processus, et il dit « à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Et nous voyons Jésus qui annonce tout au début ce principe tellement important que dans le processus que lui il fait de démonder dans notre vie, il le fait par la parole. Et c'est quelque chose qui est tellement bien de savoir, parce que ce n'est pas des idées des hommes, ce ne sont pas les opinions des uns des autres, on se fixe un certain nombre de règles établies par nous-mêmes ou établies par quelqu'un d'autre, on ne fait pas ceci, on fait cela tout simplement parce que quelqu'un nous l'a dit, mais non, ça vient de la parole. Jésus dit, j'ai déjà commencé ce processus dans vous, mes disciples, les 12 qui étaient avec lui, mais cela s'applique à nous également. Dieu se sert de sa parole justement pour enlever dans notre vie les choses qui ne sont pas productives. Et si chacun de nous est honnête, nous serons obligés de reconnaître qu'il y a des domaines dans notre vie où nous ne sommes pas productifs. Ou peut-être nous ne sommes pas aussi productifs que nous devrions être. Et Jésus veut nous rendre purs, c'est-à-dire enlever tout ce qui nous empêche de grandir. Et alors que Dieu est en train de nous purifier par sa parole, il nous rend plus utiles dans son service. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons chercher par tous nos moyens de nous rendre utiles dans le service de Dieu. Et à chaque fois, nous allons échouer. Chaque fois. Mais lorsque nous laissons la parole de Dieu nous purifier, quand la parole de Dieu dit de s'abstenir de quelque chose, de s'en abstenir. Quand la parole de Dieu dit de faire quelque chose, de le faire. Lorsque nous sommes dans ce processus-là, nous nous rendons de plus en plus utiles dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus dit, déjà, vous êtes purs, parce qu'il avait déjà commencé ce processus en eux. Eux, ils portaient déjà du fruit, et c'est pour cela que la fin de verset 2 s'applique à ses disciples. Ils avaient déjà du fruit, donc ils étaient parmi ses sarments, et il est purifié dans le but qu'il porte encore plus de fruits. Et nous voyons dans 1 Pierre chapitre 15, il va donner ce commandement, soyez saints dans toute votre conduite. Et puis aussi, dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12, c'est un verset très parlant, regardons-le ensemble, parce que lié avec ce que nous voyons ici, dans ce passage, alors, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1 et le verset 12, lié à ce que nous voyons dans Jean 15, Paul, en parlant de son ministère, il dit, au verset 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et, regardez, pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et ici, Paul, il a reconnu que s'il a pu vivre d'une manière sainte, d'une manière pure devant les Corinthiens, ben c'était, oui, par la grâce de Dieu. Et qu'il avait toujours fait cela, que sa conduite était dans la pureté, dans la sainteté. Et à cause de cela, il a pu avoir un ministère fructueux parmi les Corinthiens et dans bien d'autres endroits. Du coup, c'est Dieu qui fait ce travail de démonter dans notre vie pour nous rendre plus utiles dans son service. Et Paul, il a reconnu que cela produit la sainteté. Essayer de chercher la sainteté par nous-mêmes, ben, nous n'y arriverons pas. Mais chercher à mettre en pratique la parole de Dieu, cela emmènera et produira la sainteté. Mais cette sainteté vient du Saint-Esprit, bien sûr. Si nous revenons dans Jean chapitre 15, si nous continuons dans ce passage, nous voyons que c'est le Saint-Esprit dans chaque croyant qui le rend capable, justement, d'avoir une vie qui plaît à Dieu. Et cela est nécessaire, vital, pour que nous ayons cette vie de sainteté. Le Saint-Esprit doit être intégré dans notre vie. Jésus, il va en parler dans ce passage, dans le chapitre qui suit, ce consolateur qui allait venir du Père. Et du coup, le Saint-Esprit doit avoir toute l'attitude de travailler dans notre vie. C'est pour cela que Paul, il va dire dans Éphésiens chapitre 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. » Parce qu'à ce moment-là, il va nous rendre saints. Et nous allons faire ce qui est agréable à Dieu. Comme nous avons vu dans le verset 3 également, la base de cette purification, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos opinions. Ce que moi je pense est bien, est droit. Mes avis changent. Tantôt je vais penser dans un sens, tantôt dans l'autre. Les avis et les opinions, ça change. Les goûts, ça change. Et pourtant, ce qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Et depuis toujours, Dieu veut se servir de sa parole pour purifier ses enfants. Et deux chapitres plus loin, dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et cette idée de purifier, de laver, de sanctifier par la parole. Et puis, cette idée est reprise dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, où Pierre, il lit la sainteté, la parole de Dieu, sa conduite. Et puis, si nous revenons dans versets 2 et 3, de notre texte, nous voyons que, en fait, pour avoir toute cette sainteté, pour bénéficier de cette purification et de l'œuvre de Dieu, pour se rendre utile dans l'œuvre de Dieu, il est nécessaire de passer par ce processus où Dieu nous émonde. Et comme j'ai dit, passer par ce processus où Dieu nous émonde, ça peut faire mal. On coupe une branche, on coupe quelque chose, on enlève. Et à chaque fois qu'on enlève, ça fait mal. Ça fait mal et on a tendance à dire « Non, je ne veux pas ça. Non, je veux que tout soit tranquille, que je puisse rester dans un sens comme je suis. Je ne veux pas vraiment changer. Si ça ne coûte pas de trop, oui, d'accord, je suis prêt à changer, je suis prêt à lâcher. Mais si ça va coûter de trop, non. » Je suis beaucoup plus résistant. Et ici, au verset 2, Jésus dit, « Tout savant qui porte du fruit, il l'émonde. » La certitude de ce que Jésus dit est quand même frappante. Ce n'est pas « peut-être il l'émondera, peut-être il le fera, mais ce n'est pas sûr. » Non. Si le savant porte du fruit, il va l'émonder. Il le fera. Et si nous portons du fruit pour la gloire de Dieu, Dieu continuera de nous émonder par sa parole. Et nous ne pouvons jamais dire, bon, c'est assez, j'ai assez donné, Dieu, tu as assez pris, c'est bon, je suis déjà arrivé, j'ai plus besoin de ce processus. Non, 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 non. Si nous portons du fruit, Dieu veut toujours que nous en portions plus. Et pour que nous en portions plus, il va devoir nous émonder. Et malheureusement, nous sommes trop souvent résistants à cela. Nous ne voulons pas passer par ce processus de purification, de changer, d'enlever certaines choses dans notre vie, de changer nos habitudes. Nous sommes souvent trop résistants à cela. Et pourtant, c'est la base d'une vie qui plaît à Dieu. Et notre monde qui essaye de nous faire justifier nos actions, nos paroles, ce que nous regardons, et qui dit ce n'est pas très grave. Et la parole de Dieu dit non. Non. Voilà ce que j'attends et voilà ce qui doit changer dans ta vie. Il faut se poser la question, sommes-nous prêts à nous soumettre à ce processus où Dieu est en train de nous émonder? Sommes-nous prêts à lâcher si Dieu veut prendre quelque chose et l'enlever de notre vie? Nous voyons que lorsque nous avons la bonne réponse face à Dieu, quand il fait ce processus dans notre vie, eh bien, cela nous rend plus fructueux, plus utile dans son service. Le but est toujours qu'il porte encore plus de fruits. Et il le fera. Dans Exode, nous voyons que Moïse s'est approché de ce buisson ardent. Et puis là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? La première chose, ben, ôte tes souliers de tes pieds. Il va dire la même chose à Josué dans le chapitre 5 et le verset 15. Et à d'autres personnes, nous pensons à Ésaïe qui, lui, est tombé sur sa face devant Dieu parce que Dieu est saint. Et il voulait que chacune de ces personnes, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit Ésaïe, il voulait qu'ils soient purs. Pour Moïse et pour Josué, bah, il fallait qu'ils enlèvent leurs souliers, leurs sandales. Parce que là, c'était plein de poussière. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu de cette manière. Ésaïe, lui, il a dû passer par ce processus de purification, par ce charbon ardent qui lui a touché les lèvres. Et du coup, de nouveau, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, vous pouvez noter ce verset, il est très important. Nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite. Et souvent, nous sommes saints dans notre conduite dans l'Église, et il faut être. Il faut l'être, je ne dis pas le contraire. Nous sommes saints dans et séparés dans certaines situations, mais dans d'autres, à la maison, au travail. Dans d'autres circonstances, nous ne le sommes pas. Et cela, il faut qu'il change. Dieu veut que nous soyons saints à tout moment. Et il va continuer de faire ce processus en nous pour enlever, pour couper, pour justement nous rendre purs, pour que nous soyons utiles dans son service. Alors, se poser la question sur ce que l'on écoute, la musique. Pas simplement ici à l'église. Mais chez soi, dans la voiture, partout, ce que nous portons, ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons sur Internet. Est-ce que toutes ces choses reflètent notre sainteté pour Dieu? J'espère que oui. Mais il est très probable qu'il y ait des changements qui doivent s'opérer dans notre vie. Et Dieu veut les faire et il va les faire. Il va emmener des situations dans notre vie pour nous émonder, justement. Ce verset 2, il va émonder. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, au contraire, il nous aime. Il veut nous voir porter plus de fruits. Du coup, Jésus, il pose le fondement. Et il dit, oui, ce processus où Dieu nous émonde est nécessaire. C'est la base. Sans cela, on n'ira pas plus loin. Mais il ne s'arrête pas là parce qu'au verset 4 à 6, il va donner une autre image. Première image, c'était le vigneron qui émonde les sarments. Mais du verset 4 au verset 6, regardez ce qu'il dit. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Alors ici, Jésus commence à parler de ce principe de demeurer. De demeurer, et il faut demeurer en lui. Et justement, il continue avec cette image du cep, des sarments, et comment de la branche, de la vigne, ce cep, il arrive dans les sarments pour les nourrir. Le cep, si on le coupe de la branche, de la vigne, effectivement, il séchera. Branche séchera, n'a pas de vie en dehors de la vigne. Du coup, pour continuer de porter du fruit, ce sarment, physiquement, on doit rester attaché au cep. Et dans le domaine spirituel, bien sûr, à travers Jésus-Christ, notre vie spirituelle arrive. Et nous ne pouvons jamais espérer continuer dans notre vie spirituelle sans rester attachés à Jésus-Christ, sans demeurer en lui. Mais le moment où nous demeurons en lui, c'est automatique, sa vie continue de venir à travers nous. Alors, pour aider un peu avec cette idée de demeurer, allons dans 1 Jean chapitre 3. La première épître de Jean chapitre 3. Parce que Jésus appelle ses disciples à demeurer en lui. Ça commence avec Jésus. C'est Jésus qui donne l'ordre. Ce n'est pas l'homme qui s'est donné cette idée, « Ah tiens, je pense que je vais demeurer en Dieu, en Jésus-Christ. » Non, cela commence avec Dieu, mais il leur dit de demeurer en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Dans 1 Jean chapitre 3, versets 23 et 24. C'est 23 et 24, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors ici, c'est le même mot que Jean a employé dans son évangile, qu'il va employer ici, de demeurer. Verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Donc là, même mot, donc même idée. Et ici, nous voyons que c'est celui qui garde ses commandements qui demeure en Dieu. Mais de nouveau un problème, parce que pour demeurer en Dieu, il faut garder ses commandements. Qui garde parfaitement tous les commandements de Dieu? Personne, même les chrétiens. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire par cela? Début de verset 23, qu'est-ce que Jean dit? C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et donc ici, nous parlons du salut. Que nous croyons qu'à un moment donné, nous placions notre foi, confiance en Jésus-Christ pour le salut. Ça, c'est un commandement de Dieu. Il veut que tous les hommes le fassent. Et si nous avons fait cela, et seulement si nous avons fait cela, nous demeurons en Dieu. Donc c'est ça le commandement au verset 24 dont il est question. Ce commandement, bien sûr, de croire en Jésus-Christ et aussi s'aimer les uns les autres, c'est cela qui est en vue. Et à ce moment-là, nous demeurons en Dieu. Et si nous demeurons en Dieu, nous demeurons en Jésus-Christ. Donc Jean, par la suite, dans 1 Jean, il éclaire un peu ce que Jésus voulait dire dans Jean 15, c'est-à-dire demeurer en Dieu consiste à garder ses commandements. Et son commandement, c'est bien sûr de croire en lui. Du coup, retournons dans Jean chapitre 15. Et dans chapitre 15, bien sûr, ça commence avec Dieu, avec Jésus, où il dit, il donne ce commandement, demeurez en moi. Et nous voyons que cela veut dire croire en lui. Croire en lui, parce que c'est ça son commandement, c'est de croire en lui. Maintenant, si nous croyons en lui, cela veut dire que nous demeurons. Et cela ne dépend pas de nous. Et ceci est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que oui, le salut est en vue ici. Le salut où, à un moment donné, nous plaçons notre foi, confiance en Dieu pour le salut. Et à ce moment-là, sur la base de cette profession, Dieu nous sauve. Et puis après, il faut continuer de croire, non pas pour rester sauvé, mais parce que nous le sommes. Et alors que nous continuons de croire en Jésus-Christ parce que nous sommes sauvés, il nous donne la promesse que lui, il demeurera en nous. Regardez verset 4. Demeurez en moi, c'est-à-dire continuez de croire en moi, je demeurerai en vous. Alors, cette idée de croire en Jésus-Christ, c'est en fait de regarder vers lui, avoir les yeux fixés sur lui. Comment est-ce que nous voyons Jésus-Christ aujourd'hui? Non pas comme les disciples et les apôtres qui le voyaient physiquement, mais à travers la parole. Donc, de nouveau, nous ramenons à la parole toute chose. Et en fait, l'accent n'est pas notre croyance en elle-même, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, que ce soit pour le salut, que ce soit pour chaque chose de notre vie. Mais la chose principale dans cela, c'est l'objet de notre foi. J'aime bien ce que Pierre, lui, il va dire. Il va dire, bah, même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Et l'objet n'est pas notre croyance, mais l'objet de notre croyance. Et même parfois, si nous arrêtons de croire dans ce sens, si nous fléchissons, nous avons des moments de doute, Dieu, lui, il reste fidèle. Et il est de notre devoir de continuer de regarder vers Dieu à tout moment, dans chaque situation. Il y a des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes même spirituels. Et dans ces moments-là, que faire? Il faut regarder vers Jésus-Christ, il faut continuer de demeurer en lui. Il faut continuer de lui faire confiance. Il fait ses promesses dans sa parole. Et ses promesses, il ne faillit jamais dans ses promesses. Lui, il est fidèle. Et justement, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Nous qui croyons, nous avons Jésus-Christ en nous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et lorsqu'on pense à cela, on peut se dire, mais de quoi ai-je besoin d'avoir peur? Qu'est-ce qui est insurmontable dans ma vie à ce moment-là? Y a-t-il quelque chose auquel je ne peux pas faire face si j'ai Jésus-Christ en moi? Si c'est sa vie qui vit à travers moi? Et la réponse est tout simplement non. Si Jésus-Christ est en moi, et il est si je crois, je peux affronter n'importe quoi. N'importe quelle chose. La chose la plus complexe, tout comme la chose la plus simple dans ce monde, je suis capable de surmonter. Je suis capable de persévérer. Pourquoi? Non pas à cause de moi, mais parce que je continue de regarder vers celui qui est fidèle et vers celui qui me donne la puissance et la grâce de pouvoir surmonter. Éphésiens chapitre 6, Paul, il va parler de l'armure du chrétien. Et bien sûr, ces armes défensives, mais aussi cette arme offensive de la parole de Dieu. Et il dit, il faut prendre toutes ces armes pour pouvoir résister. Et après avoir tout surmonté, de tenir ferme, de tenir ferme. Et ce n'est pas nous, non, c'est Dieu. Et cette merveilleuse vérité que lorsque nous demeurons en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous continuons de croire, nous continuons de dépendre sur lui, lui faire confiance, à ce moment-là, parce qu'il est en nous, il va agir. Et comme il est le Dieu Tout-Puissant, il surmonte tout. Rien d'impossible. Rien de trop complexe. Et Jésus se retourne dans le physique, dans le matériel, en disant, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Si nous sommes épuisés physiquement, spirituellement, je veux dire, si nous sommes au bout, si nous n'en pouvons plus, il se peut très bien que c'est parce que nous essayons de mettre en pratique les commandements de Dieu, de faire par nos propres moyens. Parce que lorsque nous sommes remplis de la puissance de Dieu, nous ne serons jamais épuisés. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ces fleuves d'eau vive. Nous avons parlé de ce fait que cette source d'eau qui arrive, mais qui ne trouve jamais d'issue, ben à ce moment-là, va stagner, sera inutile. Mais un lac ou un étang qui n'a qu'une issue, qui n'a pas d'entrée, ben vite s'épuisera, sera sèche. Sec ce lac, cet étang. Et Jésus dit, vous ne le pouvez pas non plus, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas du tout porter de fruits. Et là, il est catégorique là-dessus. C'est même pas un tout petit peu de fruits, non. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Et si moi, je me sens un peu au bout, si je me sens épuisé, qu'est-ce que je dois faire? Déjà reconnaître que je ne suis pas revenu à la source. Parce que si j'étais revenu à la source, je ne serais pas épuisé spirituellement. Oui, physiquement, on peut être complètement au bout. Et Paul, il était souvent, et pourtant il a pu dire, même au fin fond d'un donjon, de la prison, il a pu dire, réjouissez-vous toujours, avec Silas, alors qu'il venait d'être battu, il venait d'être mis en prison dans le lieu le plus sécurisé, injustement, là, ils ont prié, ils ont chanté à la gloire de Dieu. Ils étaient au bout physiquement, mais spirituellement, ils étaient remplis de force. Pourquoi? Parce qu'ils puisaient à la source. Ils revenaient et ils restaient attachés à Jésus-Christ. Et nous serons totalement incapables et dans l'impuissance si nous essayons de faire quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ. Tout comme il serait tellement ridicule d'essayer de faire croître et de faire germer un sarment sans la vigne, sans la branche. Pour nous, il est totalement ridicule et une perte de temps même d'essayer de produire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et il dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas du tout si vous ne demeurez en moi. Et puis, bien sûr, il insiste au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, n'inversons pas les rôles. Ne croyons pas que nous pouvons faire des choses indépendamment de Dieu. Non, nous avons besoin de lui, de sa puissance. Puis, il insiste pour qu'on comprenne bien, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous devons nous poser cette question qui fâche un peu, qui nous met un peu mal à l'aise. Avez-vous beaucoup de fruits dans votre vie? Avez-vous beaucoup de fruits dans votre vie? Moi, je dois me la poser, cette question. Vous devez aussi. Parce que ce verset 5, Jésus annonce quelque chose et peut-être qu'on ne comprend pas exactement, et c'est pour cela qu'on n'y prête pas trop attention. Mais si on regarde le verset, il est catégorique. Celui qui demeure en moi, donc c'est-à-dire continue de me faire confiance, qui est déjà chrétien et puis qui continue de me faire confiance, et en qui je demeure, et ça c'est lui qui le fait, cette personne-là va apporter beaucoup de fruits. Alors, si nous ne portons pas beaucoup de fruits, où est le problème? C'est avec nous. C'est parce que nous ne demeurons pas attachés à la vigne, aux branches. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, d'examiner notre vie et dire, y a-t-il beaucoup de fruits? Sinon, il y a un problème. Nous pouvons essayer de justifier, nous pouvons essayer de dire, oui, telle ou telle chose, telle ou telle circonstance, mais vous comprenez, oui. Mais Dieu, il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, ça c'est une certitude, et là, il y aura beaucoup de fruits. Alors, où est notre fruit? Comme la semaine dernière, où sont les fleuves d'eau vive dans notre vie? Où est notre impact sur les autres? Où est le fruit que nous portons pour la gloire de Dieu? S'il y en a très peu, nous sommes obligés, à travers ce verset, de nous rendre compte, c'est parce que nous ne demeurons pas attachés au sel. Nous ne demeurons pas attachés à la vigne pour laisser le cep spirituel nous fortifier. Et de penser à cela, bon, comme j'ai dit, ça met mal à l'aise. Nous ne voulons pas admettre cela. Qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, et pourtant, oui, si nous sommes honnêtes, tous, nous avons des choses à changer dans notre vie. Et il faut le faire parce que Dieu veut le faire en nous. Dieu veut nous faire changer. Il accomplit son travail de nous émonder petit à petit. Mais parfois, nous faisons un obstacle. Parfois, nous essayons d'être indépendants, de faire les choses un peu à notre manière. Et Jésus annonce un jugement, verset 6, contre cela. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Il brûle. Alors ici, encore, certains ont pris ce verset pour dire les chrétiens peuvent perdre le salut. S'ils ne persévèrent pas, à la fin, ils seront jetés dans le lac de feu, ils sont jugés et tout. En fait, ce que Jésus annonce ici, c'est que ce qui est produit sera brûlé. Et en fait, ici, il dit, parce que nous ne produirons rien pour la gloire de Dieu, cela va partir en feu, ça va brûler. Et Paul, il dit la même chose, nous allons tous nous comparaître devant Dieu, devant le tribunal de Jésus-Christ. Nos œuvres seront jugées, passées par le feu. Ce qui restera, l'or, les pierres précieuses, tout cela restera. Ce qui ne restera pas, c'est le bois, le chaume, toutes ces choses qui brûleront. Et en fait, Jésus fait allusion à cela ici. Ce n'est pas du tout la perte du salut qui est en vue, bien sûr, mais ce sont les récompenses, ce sont les mauvais fruits, ce qu'on aura produit qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ici, Jésus annonce que si nous ne voulons pas changer, si nous persistons à vouloir être indépendants, à faire les choses comme nous entendons, à continuer notre manière de vivre, il dit, vous serez inutiles à Dieu. Et à ce moment-là, nos œuvres n'apporteront rien pour Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, oui, on va paraître, mais non pas aux yeux de Dieu. Et encore, la clé, c'est de demeurer en lui, en Jésus-Christ. Et demeurer veut dire faire confiance, veut dire croire, avoir cette confiance, cette dépendance sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la base de sa parole, qu'il accomplira ce que lui il a dit. Et ce n'est pas notre croyance, mais l'objet de notre croyance, de notre foi. Nous regardons vers celui qui est fidèle. Et si nous lui faisons confiance, si nous remettons entre ses mains, toute notre vie, chaque choix, chaque décision, chaque pensée, chaque geste, chaque parole, lui, il s'engage à nous faire porter beaucoup de fruits. C'est sa promesse. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est une certitude. Alors, encore la question, ce fruit, est-il présent dans votre vie? Est-il présent dans ma vie? Je prie que oui, mais je dois m'examiner. Et chacun doit s'examiner. Parce qu'à travers ces deux images, dans ces six premiers versets, Jésus montre que oui, la base, c'est Dieu doit enlever les choses qui sont inutiles, les choses qui sont mortes, et parfois ça fait mal. On n'aime pas trop, mais il faut lui laisser accomplir son travail, de nous montrer ce qui doit être enlevé et lui laisser faire ce travail dans notre vie. Et puis aussi de continuer de lui faire confiance, de demeurer, de rester attaché à lui en toute chose. Et le produit de cela sera beaucoup de fruits. Et si je devais poser la question, voulez-vous porter beaucoup de fruits? Je pense que la réponse serait unanime. Oui, nous voulons porter beaucoup de fruits. Maintenant, sommes-nous prêts à prendre des décisions, à faire les choix qui permettront de porter ce fruit? Parce que c'est un choix. Dieu ne nous force pas. Il ne dit pas dans ces versets, vous allez faire cela. Vous n'avez pas le choix. Faites-le, faites-le. Sinon, attention, gare à vous. Non, non, non. Il dit, voilà, je vous donne ce commandement. Suivez-le. Parce que c'est pour votre bien. C'est pour ma gloire. Il y a des conséquences si on ne suit pas. Mais je veux vous bénir. Je veux apporter ce fruit dans votre vie. Et il ne s'agit pas de tout simplement être d'accord en disant, oui, je veux porter ce fruit. Il faut passer à l'action. Faire les choix, prendre les décisions. Chaque jour, chaque instant, de dire, oui, Dieu, je te laisse agir et moi je vais agir pour toi. Je vais changer par ton Saint-Esprit, par ta puissance. Je ne vais pas me changer moi-même, mais je vais te laisser me changer. Tu as toute l'attitude. Et lorsque nous serons dans cette optique, le résultat sera manifeste. Même si nous voulions le cacher, nous ne pourrions pas. Le résultat serait manifeste pour nous, pour tous ceux qui nous entourent. Alors déjà, voulons-nous ce fruit? Beaucoup de fruits? Voulons-nous porter beaucoup de fruits? J'espère que oui. Alors prenons cette décision aujourd'hui devant Dieu. Dis-lui, oui, je veux demeurer en toi. Aide-moi. Aide-moi, nous sommes oublieux, nous tombons, nous nous égarons parfois, mais nous pouvons toujours revenir pour continuer de demeurer en Dieu par sa parole. Et lorsque nous le ferons, Dieu accomplira sa parole de faire produire en nous beaucoup de fruits qui sera à sa gloire. Priez, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons notre réticence, notre hésitation. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance en toutes choses. Aide-nous à toujours regarder vers toi, demeurer en toi, de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes et nos efforts, mais en toi, et te laisser agir dans notre vie comme toi tu veux. Oui, nous sommes faibles, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, et nous voulons porter beaucoup de fruits pour toi, que nous puissions prendre la décision aujourd'hui de te laisser agir, de rester attaché à toi, et Seigneur, que beaucoup de fruits puissent résulter de cette décision que nous prenons et que tu puisses être glorifié et exalté à cause de cela. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, nous allons chanter un dernier chant ensemble. Ce sera le numéro 193. Le numéro 193. Levons-nous pour chanter ce chant. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, oh, quel charme extrême me retient à toi. Que ce soit vraiment la prière de notre cœur, 193.